Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Avec curiosité, créativité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin, la conversation, dans laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Isabelle Demeure, qui est coach professionnelle, maître praticienne en intelligence de soi et autrice du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur », la méthode efficace pour apprendre à se connaître et prendre les bonnes décisions. C'est aux éditions Le Duc. En décembre 2020, la vie qui fait décidément bien les choses a mis sur ma route Isabelle et le dialogue intérieur sous la forme d'un atelier découverte. Alors, je n'avais jamais entendu parler du dialogue intérieur, mais le simple titre du livre d'Isabelle m'a bien entendu interpellée. Un outil pour faire les bons choix, je suis bien évidemment tout ouïe. Alors, l'éternelle étudiante que je suis a débarqué avec sa curiosité à cet atelier. Et au cours de ce temps de transmission et d'expérimentation, j'ai eu la joie de vivre l'expérience du dialogue intérieur guidé par Isabelle. Puissant et passionnant. J'ai tout de suite su que l'histoire ne s'arrêterait pas là et que j'entamais là une relation importante avec le dialogue intérieur et avec Isabelle. Depuis cette rencontre et depuis cette conversation que vous allez écouter, je travaille avec Isabelle dans le cadre de la supervision de ma pratique de coach et je me suis également formée au dialogue intérieur, cet outil puissant et pragmatique que j'utilise à présent dans ma pratique de coach. Utiliser le dialogue intérieur, c'est explorer la multiplicité de nos personnages intérieurs, c'est mettre en lumière les aspects dominants de notre personnalité et ceux qu'on a laissés de côté. Ou encore, c'est questionner l'automatisme de nos choix. À travers son livre, ses ateliers découvertes et les formations qu'elle anime, Isabelle a un objectif auquel je suis heureuse de m'associer aujourd'hui. Contribuer à démocratiser la connaissance et surtout l'utilisation de cet outil, encore peu connu en France, afin de permettre à un nombre grandissant de personnes de faire au quotidien des choix plus justes et authentiques. Au cours de notre conversation, Isabelle et moi parlons entre autres de ce qu'est le dialogue intérieur précisément et de la puissance de cet outil qui facilite des choix mesurés et alignés. Du parcours singulier d'Isabelle et de sa rencontre déterminante avec le dialogue intérieur, d'abord pour elle-même, puis dans son travail d'accompagnement, de notre palette de personnages intérieurs et du chef d'orchestre que nous sommes, ou encore de l'importance de tester et d'ajuster en permanence notre posture au monde. Alors, si vous avez l'impression de souffrir du syndrome de la girouette quand il est temps pour vous de faire un choix, ou encore si vous pensez que les choix spontanés sont forcément les meilleurs, eh bien, je vous invite sans plus attendre à découvrir cette conversation. Bonjour Isabelle.
Bonjour Oriane.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je me réjouis de partager avec toi cet échange pour parler de choix, bien sûr, et de dialogue intérieur. Alors, on va bien évidemment aller un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est que le dialogue intérieur. Tu es coach professionnel et tu es l'autrice du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur ». Alors, avant qu'on aille un peu plus avant sur la raison de ce livre, sur ce que le dialogue intérieur permet,
Je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur ton propre parcours, puisque je crois que tu es juriste de formation et aujourd'hui tu exerces le métier de coach professionnel. Quelle est la somme de choix qui finalement t'a amené sur ton chemin jusqu'à cet endroit?
Oui, mais écoute, c'est assez clair pour moi parce que dans la vie, il y a des choix qu'on fait d'une façon volontaire et d'autres qui sont finalement des non-choix. Et quelquefois, il faut passer par là pour faire les vrais choix. Hein, il y a des moments où on est obligé de faire quelque chose et c'est ce qui m'est arrivé. Après, effectivement, une vie très tournée vers ma famille, vers mes enfants, vers la carrière de mon mari, où j'avais fait des études effectivement de droit et j'étais plutôt engagée dans le bénévolat, j'étais assesseur du juge des enfants, j'ai monté des associations. J'avais pas passé mon diplôme d'avocat parce que je me suis mariée à la place, donc ça a été aussi un choix et peut-être un non-choix parce que cette époque-là, ben, les parents préféraient que leurs enfants se marient et se marient bien plutôt que pour les filles aller faire des carrières qui risqueraient de les éloigner de la vie de famille. Enfin, donc, me voilà embarquée dans cette vie avec la somme de diplômes et tout ce que j'avais fait. Et puis, au bout de 25 ans de mariage, mon mari a souhaité que nous en arrêtions là et que chacun continue sa route. Et pour moi, ça a été très difficile parce que je ne l'avais pas choisi. Même si chacun avait des torts, bien sûr, comme dans toute relation, je ne l'avais pas choisi et je me suis retrouvée dans une situation compliquée. Et là, j'ai fait un travail sur moi et j'ai rencontré le dialogue intérieur. Et cette formation que j'ai faite, qui était aussi une formation pour continuer mon chemin d'être attentive aux autres et d'aider les autres à se développer, que j'avais très bénévolement fait assez naturellement, cette formation m'a fait accepter qu'il y avait des tas de zones de ma personnalité que je ne connaissais pas et que je n'avais pas encore utilisées et qui allaient être utiles pour que je rebondisse et que je rajoute toutes ces zones-là à ce que j'étais déjà. Voilà, donc je suis partie dans une aventure de découverte, de richesse intérieure, de choses difficiles à vivre, d'accueil de tout ça. Et puis, comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et puis que j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant, j'ai voulu accompagner les autres avec cette démarche qui avait été tellement précieuse pour moi. Donc, j'ai fait d'autres formations de coaching avec d'autres démarches. Donc, j'ai un panel assez large d'outils à ma disposition. Et en même temps, c'est quand même le dialogue intérieur qui, je trouve, a été le plus efficace dans la remontée des moments difficiles et dans l'acceptation de tout ce que l'on est. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de le transmettre et d'en parler autour de moi.
J'entends combien la rencontre avec le dialogue intérieur a été déterminant d'abord pour toi, à titre personnel, avant de le transmettre aux autres, ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu expliques justement la puissance de cette rencontre-là? Tu as donné quelques éléments déjà. Peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est le dialogue intérieur.
Écoute, c'est une démarche qui a été initiée il y a dans les années 1970 à peu près aux États-Unis par un couple de thérapeutes jungiens qui sont Hal et Sidra Stone. Et c'est vraiment dans leur vie de couple, qui était d'ailleurs un couple de seconde vie, hein, c'est-à-dire qu'ils s'étaient remariés chacun, ils avaient été mariés précédemment, qu'ils se sont rendus compte que les mêmes situations se passaient dans ce nouveau couple qu'ils formaient, et alors qu'ils s'aimaient beaucoup, les mêmes situations que ce qu'ils avaient rencontré avec des conjoints précédents, qui étaient très très différents en même temps. Et ils ont donc vraiment travaillé sur ce qui se passait et découvert qu'à l'intérieur de chacun, il y avait un certain nombre de personnages ou de facettes de la personnalité qui n'avaient pas les mêmes besoins, les mêmes énergies, la même façon de se présenter, les mêmes objectifs, et que tout ça interagissait. C'est-à-dire qu'ils étaient deux, mais ils étaient au minimum quatre, c'est-à-dire chacun une partie vulnérable en eux qui ressurgissait de temps en temps, et une partie puissante et forte qui reprenait la main. Donc on avait au minimum quatre personnes au lieu de deux. Puis finalement, quand on commence à chercher ce qui se passe, on voit qu'il y a beaucoup d'autres facettes. Et donc, nous sommes à chaque fois face à des familles nombreuses et non pas face à une seule personne. Et finalement, c'est parce qu'ils ont travaillé sur eux avant de faire une théorie que leur démarche est aussi puissante. Et moi, je me dis que c'est parce que j'ai travaillé sur moi et que je l'ai expérimenté avant de comprendre la théorie, que je trouve ça vraiment intéressant, et que dans les formations que je donne, qui sont des formations de découverte, je dis, on ne va pas faire de théorie maintenant, on va déjà expérimenter ce qui se passe, et de là, on va tirer les lois et les théories et ce qui se passe en nous. Donc, on commence toujours par vivre quelque chose pour pouvoir ensuite comprendre ce qui s'est passé et en tirer des règles, des lois, des choses qui peuvent être un petit peu plus intellectuelles, mais c'est vraiment après l'avoir vécu.
Donc, le dialogue intérieur, ce que j'en comprends, c'est prendre finalement connaissance et conscience de la multiplicité, de la diversité des personnages qui vivent à l'intérieur de nous, qui nous constituent, dont on a jusqu'à présent pas toujours connaissance ni conscience, ou parfois on en a connaissance et conscience, mais certains sont valorisés là où d'autres sont mis de côté, dénigrés, ignorés, rejetés. Donc, en quoi finalement le dialogue intérieur va permettre, grâce à ce travail de connaissance et de conscience, de rendre le fonctionnement de la personne plus juste et plus authentique?
Bien, tu vois, ce qui me vient là, c'est que il y a toute une facette de notre personnalité que nous acceptons bien et avec laquelle nous identifions, ou en tout cas on se présente comme ça, hein. L'un est le bon garçon qui aime rendre service, c'est comme ça qu'il se définit. L'autre va être la femme généreuse et active qui s'occupe de tout le monde. Une autre va être un leader qui entraîne et qui a toujours des plans et qui fait qu'il embarque tout le monde. Enfin, ça va être des aspects qui sont vraiment très forts, et je vais dire qui sont des pilotes automatiques pour chacun, c'est-à-dire qu'ils prennent la place de la personne, croyant être la personne. Or, ils ne sont pas que ça, hein, la personne n'est pas que ça. Et pendant ce temps-là, et en même temps, ce qui est tout à fait opposé à ces énergies-là est rejeté à l'intérieur et n'est pas regardé, n'est pas vécu. Par exemple, celui qui est un bon garçon, bien gentil pour tout le monde, il va détester le guerrier qui est en lui, celui qui est capable de prendre la place, la première place, d'imposer les situations. Bah, la femme qui est la femme généreuse, active, qui s'occupe de tout le monde, elle va détester une partie égoïste chez elle, qui s'occupe que d'elle, qui regarde comment elle va, qui prend soin d'elle, elle va la trouver inutile, etc., etc. Et donc, ça fait que dans notre personnalité, dans ce que l'on montre, ce qui est finalement la persona dont on parle souvent, tous les opposés vont être rejetés, vont être repoussés et vont former finalement tout ce qui est dans l'inconscient, vont représenter cette partie-là qu'on ne va pas bien voir et qui constitue pour Jung en tout cas ce qu'est l'inconscient, hein, puisque pour Freud, Freud a une autre vision de l'inconscient que Jung. Mais Jung, c'est ce que l'on ne peut pas vivre, parce que l'on ne peut pas vivre deux choses en même temps. Donc il y a une chose qui est valorisée et l'opposé qui est mis dans l'inconscient. Et pour Jung, notre route, ce qu'on a à faire sur Terre, c'est de se récupérer tout ça et d'en faire un chemin qu'il appelle le chemin d'individuation, c'est-à-dire le chemin qui va faire que chacun est l'individu propre, entier, qu'il doit être. Mais ça, ça prend une vie. Donc évidemment, en avoir conscience est une chose, mais après, c'est un travail de conscience, d'éclairage, d'accueil de tout ça. Parce que si on n'aime pas, parce qu'on est généreux, l'égoïste en nous, ben, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle sait faire, cette égoïste, que moi, je ne sais pas faire ? Et en regardant le côté positif et non pas en la jugeant comme égoïste, on va dire, ben, tiens, elle sait s'arrêter. Elle sait dire non. Elle sait veiller sur la personne. Elle sait regarder ses besoins. Elle sait mettre des limites. Et à ce moment-là, ça va être un travail de réintégration de cette partie qui est jugée auparavant comme négative, de la place de la personnalité qui la juge parce qu'elle est opposée. D'accord ? Donc voilà, ça va être aider dans le travail qu'on fait à qui je suis, quelles sont les parties dominantes. C'est juste génial. Ces parties-là, elles sont à conserver, elles sont à garder, elles sont précieuses, elles nous ont permis d'être ce que l'on est, et bravo, et merci. Sauf que, ma petite dame, si tu ne restes que là et que tu ne vois pas à côté, tu vas te priver de plein de choses qui seraient beaucoup, bien, bien, bien utiles pour toi. Et donc, qu'est-ce que les opposés pourraient dire et comment on va aller les rechercher pour réintégrer la partie positive que chacun porte. Chaque personnalité, chaque personnage a du positif. Et quand il est en excès, peut être vraiment difficile à vivre.
Donc, le dialogue intérieur permet d'aller justement prendre en considération, finalement, apprécier toutes les parties de nous-mêmes, y compris les parties qu'on a tendance à essayer de pousser sous le tapis, hein, et dont on n'est vraiment soit pas fier ou soit qu'on n'ose même pas regarder en face. Et dans ce que j'entends de ce que tu partages, c'est finalement qu'il y a un véritable trésor qui réside dans les jugements, notamment les jugements négatifs que nous formulons à notre encontre, qui sont finalement à la fois des indices, hein, l'enquêteur ou l'enquêtrice que nous sommes sur nous-mêmes, là, je porte ce jugement-là sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, de quoi suis-je en train de me priver? C'est ça que j'entends.
Oui, bien sûr, c'est exactement ça, Auriane. Tu peux te poser à chaque fois, quelle partie de moi juge? Tiens, je juge, bah, qui juge en moi? Qui juge en moi? Hein? Et les jugements et les projections, c'est la voie royale pour aller chercher les parties qui sont reniées, qui sont repoussées et qui ont quelque chose à nous apporter. On ne veut pas les voir en nous, par conséquent, on ne veut pas les voir chez les autres. Hein? Et très souvent, non seulement on se juge soi, mais on juge les autres. C'est-à-dire, les jugements, c'est tous les hommes sont comme ci, toutes les filles sont comme ça, tous les noirs sont comme ça, tous les jeunes sont comme ça. Et puis les projections, c'est un tel m'énerve ou telle personne m'horripile dès que je la vois, il y a un truc qui ne va pas. Hein, les jugements, c'est plus général, les projections, c'est plus individuel. Mais c'est le même travail, c'est à l'intérieur qui est-ce qui juge, qui est-ce qui projette. Et question, qu'est-ce que l'autre que je juge, sur lequel je projette, sait faire que moi, je ne sais pas faire.
C'est ça.
Et alors là, on peut se réapproprier quelque chose et l'ajouter à ce que l'on est déjà. Hein, c'est sûr que, par exemple, je vais te donner un exemple très simple, qui peut parler à certains, je veux dire n'importe quoi, je suis horripilée par les gens radins qui sont là à compter combien on leur doit un café, il faut leur rendre la monnaie, enfin les bricoles, les machins, bon. Quelle partie de moi juge ça ? C'est une partie de moi qui dit, bah, attends, on ne compte pas, quoi. On est généreux, on y va, on partage quelque chose et on n'est pas là en train de retenir la moitié, etc. Bon. Qu'est-ce que les autres savent faire, les radins, que je ne sais pas faire? Facile de voir que ce qu'ils savent, c'est faire leur compte. Ils savent calculer, ils savent regarder où ils en sont dans leur porte-monnaie. Et puis, qu'est-ce qui me manque, moi, hein, que je pourrais bien aussi rajouter, bah, c'est que comment eux, ils me verraient, bah, eux, ils vont dire que je ne suis pas forcément généreuse, mais je suis plutôt panier percé. Ils vont se dire, elle fait n'importe quoi. Donc, on voit bien que d'un côté, la généreuse, elle peut être panier percé, donc elle peut horripiler les radins. Et les radins, ils peuvent être à la fois des calculateurs et puis des gens, effectivement, qui ne partagent pas beaucoup, mais aussi qui savent faire leur compte très finement. Et donc, si on reste de sa fenêtre sans en disant « c'est moi qui ai raison parce que c'est comme ça, il faut être généreux » et donc les radins sont nuls, ben, on a bien plus, bien meilleur temps de se dire « qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à aller chercher? Comment je peux aller chercher ça en moi? Comment je peux l'accueillir même un tout petit peu? Parce que je ne vais pas devenir pour autant ce que je voyais en Eurada ou très bonne gestionnaire de mes comptes. Mais en tout cas, ça va être une attention que je vais pouvoir porter à ça. Et alors, du coup, ça va rejoindre un tout petit peu la question que tu veux me poser, en tout cas que j'entends sur les choix que l'on fait. Quand on fait un choix, qui fait le choix? Qui fait le choix? Il ne s'agit pas de dire, enfin, je ne sais pas moi, enfin, pour moi, ça me paraît extrêmement simple. Qui fait le choix? Quelle partie dominante de moi va finalement trancher? Quand je fais un choix immédiat et spontané, sans réfléchir à la réponse que je vais donner, c'est évidemment une partie dominante qui choisit à ma place. Ce sont les parties dominantes, si elles ne sont pas freinées, elles s'assiedent à notre place, hein, elles conduisent notre voiture. Hein, donc, voilà. Donc, quand il y a un choix à faire, c'est mais ce qui serait à l'opposé de ma spontanéité, de ce que j'aurais envie de choisir, parce que je choisis toujours pareil, qu'est-ce qu'il dirait, quoi?
Ce que j'entends, effectivement, c'est que le dialogue intérieur nous permet finalement de prendre connaissance et conscience du fait que nous sommes composés donc, d'une multiplicité de personnages intérieurs qui se construisent dans une dualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un recto et un verso finalement, même si nous avons des forces dominantes, et que prendre conscience de ce double mouvement, tout cela, si on travaille à avancer vers davantage d'équilibre, hein, si on imagine un curseur entre les deux opposés que sont par exemple le généreux et le radin que tu évoquais tout à l'heure, comment est-ce que pour être encore mieux avec moi-même et mieux avec les autres, je vais pouvoir travailler à prendre conscience de ces deux versants en moi-même, travailler à ajuster l'équilibre entre les deux forces, et comment est-ce que ce système d'opposés, finalement, quand il s'agit du choix, va me permettre non pas d'être dans des réactions immédiates et spontanées, mais plutôt d'aller me nourrir de ma richesse totale et de faire des choix authentiques, entiers, dans le sens où j'ai pris en compte l'ensemble de la personne que je suis et non pas simplement une décision depuis la fenêtre de mon personnage dominant, par exemple. Est-ce que ça résume bien l'approche?
C'est tout à fait clair, Oriane, tu comprends très bien. Il y a juste un petit point qui est peut-être un petit peu différent, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de l'eau tiède, finalement. Il ne s'agit pas d'être un peu moins généreux et un peu plus radin pour que ce soit bien. Il s'agit plutôt de voir à quel moment le généreux peut vraiment vivre sa vie de généreux et à quel moment celui qui fait ses comptes doit être là. Et du coup, c'est plutôt le dialogue intérieur, c'est non seulement la conscience que l'on est une multitude de personnes, que l'on a une multitude de personnes à l'intérieur de nous, dont certains sont cachés et d'autres sont mis en valeur, mais c'est surtout mettre en place une instance qu'on appelle le moi conscient. Les Américains disent aware ego. On l'appelle le moi conscient ou l'ego conscient ou le moi prenant conscience. Ça dépend des écoles et des formateurs. Mais en tout cas, c'est une instance qui va être comme le chef d'orchestre, comme le metteur en scène, qui va décider de qui est juste à ce moment-là, hein, qui peut venir à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même si on est en train de travailler sur une polarité opposée, sur mettons, je reprends l'exemple du radin et du généreux, il y a très souvent, quand on fait une séance, quand on travaille, d'autres personnages qui émergent et qui sont aussi des personnages à qui on va laisser de la place, parce qu'ils ont quelquefois absolument rien à dire ou ils n'ont jamais eu le droit de parler. Mais on peut imaginer, par exemple, je fais une supposition, que le personnage que je juge vraiment radin, au fond, il y a un petit garçon au fond de lui qui a peur de manquer parce qu'il a connu ça dans sa jeunesse ou parce qu'il connaît l'histoire de parents qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu du mal à économiser. Et qu'il y a donc derrière une peur qui peut exister et qu'il va falloir aussi qu'on entende. Et ce n'est pas pour rien que chaque aspect de la personnalité est là. Il peut y avoir aussi derrière la généreuse une histoire où il y a une petite fille qui a toujours entendu que pour être aimée, il faut donner, il faut prendre en charge les autres, il faut leur donner ce qu'on a, que soit on passe en dernier et que les autres doivent être servis en premier, etc. Et donc, du coup, c'est petit à petit, on rentre dans un théâtre, ce que je dis, un théâtre intérieur qui est magnifique parce que la personne qui travaille, ce que je trouve très beau, ne se sent jamais jugée, ne se sent jamais dévalorisée. Juste, elle est en train de regarder les poupées russes, comment elles s'emboîtent, et puis comment est-ce que chaque chose a pris place, et puis comment il y en a qui ont pris toute la place, et puis comment il y en a d'autres qui sont démunies, et comment on va les écouter, et leur redonner la place pour ce qu'elles savent faire et ce qu'elles peuvent faire.
Et par rapport à cette question du choix, justement, tu as intitulé le livre que tu as écrit « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur ». Comment est-ce que concrètement, au regard de ce qu'on vient déjà d'évoquer, le dialogue intérieur permet de faire un bon choix ? Et peut-être peut-on commencer par qu'est-ce qu'un bon choix, justement, sous l'angle du dialogue intérieur ?
Alors, sous l'angle du dialogue intérieur, un bon choix, c'est un choix qui n'est pas binaire. C'est un choix où véritablement on a fait le tour de la question, on est allé explorer les différents aspects de la personnalité ou de l'interaction avec d'autres personnes qui sont finalement en lien avec ce choix. Il n'y a pas simplement que soi-même, mais il y a des choix qui engagent aussi d'autres personnes. Donc c'est vraiment important de savoir à la fois se promener dans, par exemple, si je me rattache à la typologie jungienne, on va peut-être, par exemple, aller chercher qu'est-ce qu'on a concrètement sous les yeux dans le choix à faire. Qu'est-ce que ça va être comme contenant, comme coût, comme prix, comme nombre de kilomètres, comme investissement, enfin, etc., quelque chose de très concret. Et puis, on va peut-être aussi aller chercher qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Qu'est-ce que ça pourrait être si ce choix qu'on a à faire, on voyait où ça pourrait nous mener ? Qu'est-ce qui pourrait nous apporter d'autre ? Enfin, là, on va aussi chercher à regarder qui en nous pourrait élargir la situation, voir les conséquences, voir plus grand. Et puis, peut-être qu'on va aussi aller en nous explorer un aspect de la personnalité qui veut que les choses soient claire, soit logique, soit rationnelle, que la décision, elle soit basée sur des choses sérieuses, mais en même temps, on va peut-être aussi aller chercher une partie qui a le cœur qui vibre, et ce choix, qu'est-ce que c'est ? Comme choix de cœur, mais tout ça, c'est pas exclusif l'un de l'autre, c'est tout ça qui est visité, qui est regardé avec des besoins. Et le vrai choix, le bon choix, ça va être un choix qui va être pris de cet espace central que nous appelons le moi conscient, c'est-à-dire cet espace qui ne va pas dire ça c'est mieux que ça, mais il y a tout ça, et avec tout ça j'ai une boussole, et je vais pouvoir regarder comment, si je me place un petit peu plus haut, je sais que si je choisis ça, il va peut-être y avoir quelque chose à lâcher à tel niveau, comment est-ce que je vais pouvoir l'expliquer, comment est-ce que je vais pouvoir voir quelles vont être les conséquences, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper, est-ce que j'ai les moyens de voir quoi faire. Il y a des choix qui sont stratégiques, qui demandent évidemment de réaménager les choses, de voir, je prends un choix très, très difficile, par exemple le divorce, qui est vraiment la personne qui choisit de divorcer. Il y a plein de trucs. Il y a le mal qu'on se fait à soi, qu'on fait à l'autre. Il y a le fait que ça va coûter cher, le fait qu'il va falloir déménager, le fait qu'on va avoir un regard des autres qui va être très négatif, le fait qu'on va s'en vouloir. Enfin, c'est colossal. Mais tout ça, si c'est visité, si c'est vraiment pris en conscience et qu'on va déterrer les parties, les aspects qui n'ont même pas le droit à la parole, hein, le choix, il va être pris par une partie de nous qui dirige notre vie et qui pense qu'il n'y a que cette partie-là qui a le droit de parler, et le choix va être bancal. Le résultat, c'est qu'il y aura un retour de bâton. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une partie dans la personne qui n'a pas été écoutée et qui aura son mot à dire, mais ce sera quelquefois trop tard.
Et en plus, parfois très violent, c'est-à-dire dans la manière dont cette partie-là peut se manifester, ça peut être très intense, quoi.
Voilà. Il n'y aura pas eu la conscience qui sera mise sur… par exemple, je sais pas, pour certaines personnes, il y aura besoin de passer par une étape de pardon, par exemple, par une étape de reconnaissance de ce qui a été vécu. Voilà, moi, j'ai accompagné des couples comme ça, et je trouve qu'il y a, pour chacun, il y a des besoins qui, si on… Comme en plus j'avais fait du droit, je voyais bien dans le droit de la famille comment les avocats n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ça, et combien c'est un aspect extrêmement difficile pour les couples, c'est que ça va être réglé dans un niveau extrêmement matériel, ou en tout cas apparemment, en mettant des responsabilités à droite à gauche, mais il y a tout un pan de la personnalité qui va être… tout ce qui va être l'impact personnel, l'impact sur le regard sur soi, sur la reconnaissance de ce qui s'est passé, qui va être important de traiter. Donc, faites les bons choix. Les bons choix, on fait toujours pour le mieux. C'est pas quelque chose d'automatique. Mais en tout cas, c'est se donner le mal de regarder toutes les parties en nous qui peuvent être impactées et en l'autre, et de voir ce que chacune a à dire pour pouvoir être le plus conscient possible de ce qui va se passer et le gérer avec un peu de hauteur, en prenant tout en compte, en prenant tout, même, je veux dire, sur son cœur, en étant vraiment proche de chacun, sans dévaloriser quoi que ce soit et sans exclure quoi que ce soit.
Donc, moi, ce que ça me fait résonner, c'est finalement sortir des choix automatiques, y compris des choix où parfois, d'ailleurs, les personnes vont dire « Ah oui, mais moi, je choisis comme ça vient, je choisis avec le cœur. » Or, ce n'est pas forcément avec ce cœur-là d'automatisme qu'il va être intéressant de choisir, mais plutôt d'aller choisir avec un cœur sage, c'est-à-dire d'avoir pris le temps d'explorer différents aspects de la situation. En revanche, ça signifie que la personne qui fait un choix est consciente que le temps et le regard vers soi sont des étapes essentielles. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit « ça a l'air super intéressant, mais concrètement, je fais comment et surtout, peut-être, par quoi je commence ? Peut-être, quelle est la question qui pourrait m'aider à amorcer une réflexion pour un choix, non pas automatique, mais un choix intégré et pris depuis la place de ce fameux chef d'orchestre qui va… faire entrer les instruments avec la bonne justesse et la bonne nuance.
Alors, c'est un travail qui n'est pas très simple à faire tout seul, pour être honnête, parce qu'on est vite rattrapé par nos aspects dominants de la personnalité qui pensent qu'ils ont leur mot à dire. Alors, quand on travaille avec ce qu'on appelle un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille comme ça, on va en général commencer par écouter la partie dominante. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi individuellement en travaillant tout seul. C'est naturellement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est là, quoi ? Si je continue l'idée du divorce, est-ce que c'est le revanchard ou est-ce que c'est la partie effondrée ou est-ce que c'est la culpabilisante ou est-ce que c'est le portefeuille qui voit combien ça va lui coûter ? Enfin, on écoute ça et on lui donne vraiment de la place. Mais si c'est le portefeuille qui a parlé, par exemple, on va lui dire, est-ce que vous pourriez changer de place et vous mettre à un endroit où vous n'avez pas du tout le même avis que le portefeuille qui vient de parler, hein? Et le changement de place est important et d'une autre place, il va se passer quelque chose et une autre partie va pouvoir s'exprimer. C'est énergétiquement extrêmement important. Donc, dans mon livre, qui quand même j'ai voulu rendre pratique et dire vous pouvez travailler là-dessus aussi tout seul et c'est aussi possible, je dis si vous vous lancez là-dedans, donnez-vous du temps et donnez-vous de l'espace, vous allez pouvoir changer de place et vous dire, et là, qu'est-ce qui se passe si je suis à l'opposé de celui qui vient de parler? Comment est-ce que je vois les choses? Est-ce que c'est différent, hein? Revenir ensuite à la place de démarrage et voir ce qui émerge et ce qui vient et redonner de la place à ce qui vient. Donc, c'est vraiment un dialogue, une rencontre avec différents personnages qui nous constituent. Alors, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, quand on dit dialogue intérieur, ça peut faire penser, il y a des gens qui confondent ça avec de la méditation, par exemple, où on va parler à l'intérieur de soi, à ce qui nous habite et faire avancer les idées et les émotions, etc. Or là, ce dialogue intérieur, finalement, il passe aussi par une zone extérieure parce qu'on fait exprimer à l'extérieur en changeant de place les différentes énergies qui sont confrontées, qui s'opposent et qui ont chacune à dire. Et c'est extrêmement soulageant pour la personne, tout d'un coup, de sentir qu'elle n'est pas que la partie qu'elle croyait, mais qu'il y a autre chose qui peut trouver des solutions, qui peut faire que ça va élargir ses possibilités, dont elle va pouvoir prendre soin, qu'elle aura rencontré, parce que l'énergie qu'on rencontre, on peut la retrouver. Donc, il va falloir accueillir aussi cette réintégration de ceux qui n'avaient jamais le droit de parler, qui tout d'un coup apportent quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment le secret. Et on peut le faire simplement. Et là, ce matin, je reçois un petit texto là, d'un client que j'accompagne qui a lu mon livre, parce que à la fin de mon livre, il y a juste un tout petit clin d'œil que j'ai fait à des parents, parce que je me suis amusée avec mon petit-fils un jour qui était très en colère, à parler à sa colère. Et donc, je l'explique. Et là, il me dit, ce matin, il me dit, voilà, ce matin, mon petit garçon se réveille complètement effondré, voulant pas aller à l'école, extrêmement triste, sanglotant, etc. Je me suis dit, tiens, ça c'est un petit garçon qui est vulnérable, qui est fragile, qui est en train de parler, il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. Je l'ai écouté, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a parlé d'un petit ami qui se moquait de lui. Enfin, j'ai vraiment bien écouté ce petit garçon au fond du trou et je l'ai laissé parler. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, j'imagine qu'il y a un petit garçon bien triste là, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un petit guerrier qui a envie d'aller à l'école et de montrer qu'il est grand et fort et tout ça. Et le gamin, il a donné un nom à ce petit guerrier, il s'est redressé, il a dit « oui, je vois très bien ce que je vais faire, oh mais c'est génial, voilà, je vois très bien, et oui, il ne va pas m'avoir, et je vais y aller, je ne vais pas du tout. » Et ce petit guerrier, il avait tout à fait une autre vision de la situation. Il n'était pas, bloqué au fond de son lit. Et ce papa qui me dit ce matin, il me dit « c'est quand même formidable parce que juste accueillir ce qui est là et faire émerger l'opposé, ça permettait à ce petit garçon de comprendre que la tristesse avait le droit d'être là et que ce n'était pas à dire « t'as pas à pleurer, t'es grand ». Non, non, c'est… T'as ça qui est vraiment dur. Et aussi, tu as de la ressource en toi que tu peux aller chercher. Et il l'a très bien compris. Et moi, j'étais contente de ce témoignage.
C'est formidable. Et effectivement, ce que j'entends, c'est finalement, quand il y a la question et l'enjeu hein, qu'on peut se mettre autour de « il faut que je fasse le bon choix », alors que ce soit face à son enfant, par exemple, ou en tant que personne, c'est finalement de se dire « j'ai en moi un nombre de ressources ». Alors, pour certaines que j'ai l'habitude de mobiliser parce que je les connais bien, et j'ai aussi, à côté de ça, d'autres ressources que je n'ai pas encore explorées ni exploitées. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grande curiosité à avoir et à aiguiser pour aller à la rencontre et de soi-même et d'élargir finalement, comme tu disais tout à l'heure, la palette des couleurs, des possibilités qu'on a en nous, quoi.
C'est exactement ça, tu vois, c'est… Je me rappelle quand l'éditeur m'a, quand on a cherché le nom le long de mon livre, parce que il voulait que ce soit un livre sur le dialogue intérieur très très ouvert pour que des gens de tous bords qui sont pas forcément des thérapeutes, surtout pas d'ailleurs, puissent aller expérimenter et voir ce que c'était. Il m'a dit à un moment, me dit, mais en fait ça, je comprends bien ce qu'est le dialogue intérieur, mais ça permet quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Et moi je lui ai dit, ben ça apporte de faire les bons choix. Ça apporte de choisir d'une façon beaucoup plus large, de ne pas être rivé à c'est blanc ou c'est noir. Ben non, il y a plein d'autres possibilités. Il y a plein d'autres façons d'être généreux en faisant attention au cordon de sa bourse, de se séparer de son conjoint, mais en faisant aussi attention à l'impact émotionnel, à prendre soin, et pas simplement de son porte-monnaie, mais aussi de son image et de l'image de l'autre. Enfin, il y a plein d'options qui arrivent et qui, du coup, enrichissent terriblement la situation.
Oui, c'est finalement faire un choix depuis sa propre place, en cela qu'elle est singulière, unique. Et donc, c'est finalement aller construire sa propre solution, forte ou forte de tout ce qui est disponible finalement, finalement ouais, en
solution,
nous. Quoi.
Une solution à partir, non pas d'un aspect de notre personnalité qui viendrait en premier, mais d'un cocktail. En fait, on fait un joli cocktail, quoi. On regarde vraiment, et puis on regarde ce qui émerge, et puis du coup, la validation du choix, c'est de dire aussi après, bon, alors finalement, je vais m'arrêter à cette solution-là de telle façon, est-ce que chaque partie que j'ai rencontrée chez moi est d'accord? Est-ce que ça lui va? Est-ce que je vais avoir... Je vais pouvoir faire émerger peut-être d'autres aspects de ma personnalité pour prendre en charge ce qui a été fragilisé. Est-ce que je vais bien y penser? Parce qu'il y a quelquefois dans les choix, il y a des deuils à faire, il y a des choses. Bon, de savoir que voilà, le choix, il entraîne aussi quelquefois des stratégies après pour accompagner ce qui a besoin de l'être. Mmh. Et donc, on élargit beaucoup.
Et finalement, j'entends que il y a avant tout. Pour commencer, finalement, puisqu'il faut commencer quelque part, il y a d'abord à avoir une forme d'attention, de se porter attention, et notamment quand il s'agit des choix, ce que j'ai entendu peut-être en termes de première question qu'on peut se poser quand on veut travailler, être davantage attentif ou attentive, c'est quand je fais ce choix-là, qui est aux commandes? Qui a choisi en moi, en fait? Quelle est la partie de moi qui a choisi? Et est-ce que si c'est un choix qui me convient, quels sont finalement les ingrédients de ce cocktail que j'ai envie de conserver, de préserver? Et si c'est un choix qui ne m'a pas convenu rétrospectivement, quelle est la partie de moi que j'ai peut-être négligée aussi et que j'ai envie d'aller explorer davantage? Oui, est-ce que c'est un premier point de départ intéressant?
C'est un bon point de départ. Peut-être que au lieu d'aller voir si ça n'a pas convenu, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est peut-être systématiquement de dire qui est là qui prend ce choix et qu'est-ce que dirait la partie opposée. Très vite. Très vite.
Qui est aux commandes et que ferait la partie opposée?
Oui, que ferait la partie opposée? Oh, la partie opposée, elle dirait que des bêtises. Qui est-ce qui dit ça qu'elle dirait que des bêtises, hein? Donc, toujours la même qui serait en main. Donc, reprendre la disposition que là, d'un côté, il y a la partie qui... est décisionnelle, enfin en général, et qui est dominante, et donner la parole sciemment à celle qui pense exactement le contraire. Et qu'est-ce qu'elle ferait de différent? Et de quoi elle aurait besoin pour prendre ses décisions? Et c'est pas forcément, je sais pas, moi j'imagine, par exemple. Je prends la décision d'aller en vacances avec tels amis, par exemple, parce que j'y suis toujours allée. Hein. Et ben, qu'est-ce que dirait la partie qui ne voudrait pas aller en vacances avec ses amis, hein? Elle pourrait peut-être dire, moi, j'ai envie d'être trop calme, j'ai pas envie d'être 18 à table, j'ai envie d'être un petit comité, j'ai envie d'avoir d'espace pour moi, bon, etc. Pourquoi pas faire une réflexion à est-ce qu'on pourrait être par exemple dans un autre espace à nous où la famille se retrouverait pas très loin des amis pour faire des excursions ensemble. Par exemple, un exemple très simple. hein, au lieu d'être dans la même maison, à faire tous les mêmes repas et à gérer tout le monde ensemble. Ça peut être des options aussi simples que ça, alors que quand on n'a pas l'habitude d'aller voir l'opposé, on va dire « Oh, mais on y va tous les ans, ça fait quand même au moins 5 ans, on a vu les enfants grandir, c'est super sympa et tout ça. » Voilà. Qui est-ce qui dirait « c'est pas sympa » Ben, y en a une qui dirait peut-être « Mais moi, je rentre crevée de ces vacances et c'est fatigant d'avoir tout le monde à table et moi, j'ai besoin de temps en temps d'autre chose. » Et du coup, en se disant bah, « Tiens, il y en a une qui trouve vraiment sympa d'être tous ensemble et l'autre qui trouve que c'est vraiment crevant. » Comment moi, je peux trouver une solution où je ne renie personne et où mon choix va être un choix de conscience avec tout ce que je suis et tout ce que je peux prendre en compte.
Et en partant, moi, c'est ce que je trouve très, très intéressant et important et essentiel finalement, c'est de se dire que tout est utile. C'est-à-dire qu'être aussi attentive au jugement, de se dire « Non, je ne vais pas écouter la fameuse voix rabat-joie dont on entend beaucoup parler. » Eh bien, cette voix rabat-joie, elle a des choses à nous dire et qui sont importantes et qui n'ont pas à être jugées, mais plutôt à être intégrées. Et j'aime bien l'image un peu d'un enfant de 2-3 ans qui fait une grosse colère jusqu'à ce qu'on l'écoute. J'ai un peu cette impression-là, finalement, que toutes ces forces qu'on a tendance à vouloir repousser parce que les jugeants négatifs, pas très chouettes, etc., eh bien, elles vont revenir, les fameux effets manivelle que tu évoquais, retour de bâton que tu évoquais tout à l'heure, vont revenir avec encore une plus grande violence. Et effectivement, la fameuse goutte d'eau qui va déborder, je reprends l'exemple de tes vacances avec des amis et c'est super chouette et on est très contents, et bim, il va y avoir la petite goutte de trop qui fait que personne ne comprend pourquoi, mais cet événement, cet instant-là va faire revenir à grand renfort de cris la partie rabat-joie qui n'a pas eu droit de citer jusqu'à présent.
Exactement, et on n'a pas pris en compte une opposée qui n'a pas forcément envie de ce que la dominante, celle qui a l'habitude d'être là, a envie. Et il y a plein de... Et c'est vrai que du coup, quelquefois on dit oui, mais moi, si je fais ce choix, par exemple, de partir en vacances avec des amis parce que mon mari trouve ça génial, parce que mes enfants aiment bien les enfants des autres, parce que on s'entend tous super bien, etc. Oui, bah après, quand on entend, si elle a vraiment entendu une partie qui en peut plus, qui est crevée, qui se repose pas, c'est peut-être renégocier avec le mari comment est-ce qu'elle va se reposer, à quel espace elle pourra avoir aussi du temps pour elle. Est-ce qu'au lieu que ce soit 15 jours, c'est 8 jours, est-ce que ce serait possible ? Enfin, il y a plein de négociations possibles à partir du moment où on s'est déplacé pour aller écouter une autre partie. Je crois que le déplacement, finalement, il est très important. Parce que si on reste à la même place, on reste dans la même énergie et donc on va résister à l'autre solution. Hein ? Et donc le déplacement, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Moi, je suis aussi attentive quand j'ai des personnes chez moi, à voir où est-ce qu'elles choisissent comme place. Hein ? Si c'est la place tout proche du siège qui commande, ou bien si c'est une place à l'écart, ou si c'est debout, si c'est assis, si c'est en boule, si c'est par terre. C'est très parlant par rapport à qui est-ce qui est là et qui s'exprime. Et ça aide à rentrer dans l'énergie.
Donc, finalement, c'est une histoire de mise en mouvement, de processus, de danse. Tu l'évoques dans ton livre, cette danse des énergies entre, d'une part, nos pôles très puissants hein, qu'on a l'habitude de mobiliser et dans lesquels on se sent généralement confortable et avec les rênes en main, et le pôle de la vulnérabilité qu'on mobilise, qu'on connaît moins, qu'on maîtrise peu, qui nous fait parfois peur. Et finalement, ça va être de s'engager dans un processus mouvant où on va aller accueillir tout ceci parce que tout va être utile à faire des choix depuis notre place, de manière juste, authentique et unique.
Formidable, Oriane. Tu as très bien compris le truc, c'est chouette. Ouais, ouais. Et comme tu l'entends, comme tu le dis, c'est aussi très valorisant parce que c'est une façon de se regarder avec attention, avec conscience, avec confiance, avec un regard positif sur ce qui nous habite et non pas sur un regard qui juge, puisqu'on l'a vu, hein, le jugement, c'est qui est-ce qui juge. Et si on se repositionne au centre, là, il n'y a plus de jugement. Hein, et c'est vraiment ce qui est important. Je dis souvent comme image, vous voyez une grande roue de charrette hein, avec le moyeu au milieu et puis tous les rayons en bois là, qui vont dans toutes les directions. Et bien, ce que finalement il faut faire, c'est que si on se place sur un rayon eh ben, si c'est le rayon qui décide, il va tout apporter vers lui. Si c'est au centre qu'on se positionne et qu'on voit ce qui déciderait bien finalement en premier, mais qu'est-ce que l'opposé du rayon pourrait dire, et puis à côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait bouger, et de là, qu'est-ce qu'on va insuffler comme énergie, comme décision, comme choix qui va être consciente de tous les impacts que ça peut avoir et tout ce que ça peut mobiliser pour faire quelque chose d'équilibré et de confortable. Et voilà, qui nous fait aussi prendre en compte tout ce que l'on est. Et je dis toujours tout ce que l'on est. On oublie la moitié de ce que l'on est comme richesse, quoi. On est une richesse, tous d'une richesse infinie.
Et cette richesse infinie, j'aimerais pour finir évoquer la richesse infinie que tu as aussi, bien évidemment, Isabelle. Et tu as, notamment dans le cadre de ta formation, j'ai cru lire que tu avais fait le choix de faire un mémoire sur la chanteuse québécoise Linda Lemay. Alors, pour conclure notre échange, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as fait ce choix-là, pourquoi cette personne, cet artiste-là, et peut-être y a-t-il un apprentissage, un partage à faire de ce que tu as appris de Linda Lemay à travers son œuvre, autour de la question du choix notamment.
Alors, moi, Linda Lemay, au moment où je faisais mes formations, c'était dans les années 2005, 2004, 2005, 2006, elle avait les prix de la musique, je ne sais plus quoi, elle avait reçu pas mal de trucs, elle était très en vogue. On la voit un peu moins maintenant, mais je n'ai pas souvent manqué quand elle est venue à l'Olympia à Paris. Alors, c'est très curieux, c'est qu'elle ne chante pas forcément les choses qu'elle a vécues, alors que quand on l'entend, on a l'impression qu'elle est passée par là. Il y a juste une chanson qui est vraiment autobiographique, c'est j'ai frappé ma fille. Voilà, elle avait donné une claque à sa fille, elle en a fait une chanson tellement ça l'a rendue triste. Mais tout le reste, qu'elle parle de la centenaire qui voit les heures s'égrener et toute sa famille morte avant elle, qu'elle voit les deux hommes qui sont un couple et qui se voient tout le temps jugés, qui n'ont pas le droit d'aimer, qu'elle voit la femme qui est trompée par son mari, qui rencontre les fameux souliers verts dans le placard, qu'elle parle de la fille qui demande à sa mère « Mais comment t'as fait, maman, pour rencontrer papa ? Comment t'as fait pour qu'il soit le seul homme de ta vie ?» Enfin, c'est une somme de situations absolument superbes où ce qui est vécu est vraiment regardé avec lucidité. Alors, la chanson qui, moi, m'a vraiment éclairée et portée, c'est une chanson qui dit « Mais moi, je suis grande ». Alors, cette chanson, si vous avez envie d'aller l'écouter, écoutez-la. Quand vous tapez Linda Lemay, il y a plein de choses à écouter, mais « Moi, je suis grande », elle montre… finalement, ce que j'ai été, hein, c'est cette femme très connotée à « je suis courageuse, je fais tout bien comme il faut, j'écoute les autres, je fais en sorte que les miens soient heureux, je fais tout bien, quoi. Je ne teins pas les cheveux, j'ai l'eau bénite qui me monte aux cils, enfin, il y a plein de trucs qui sont amusants. » Et puis, il y a tout le temps qui revient, mais ce que je voudrais, c'est vivre complètement, c'est être en pleine liberté, c'est créer, c'est me lâcher, c'est faire n'importe quoi, c'est partir sur une plage, me faire courser par des beaux marins. Enfin, elle est très imagée. Et à chaque fois revient, mais non, car moi, je suis grande, je suis vulnérable, je montre l'exemple, je suis responsable. Et donc, on voit bien qu'elle balance combien on a de capacité à reprendre les rênes à partir de nos personnages dominants et d'étouffer l'opposé qui a envie d'émerger et qui se rappelle à émerger. Et le jour où on a compris que les deux ont leur place et que les deux sont bien et qu'on peut à la fois être grande et solide et aussi se faire plaisir et se lâcher et courir sur une plage, alors là, on a réuni tout ça. Et je trouve que Linda Lemay, c'est un personnage merveilleux pour nous faire comprendre ça. Elle écrit, par exemple, une chanson magnifique aussi sur un enfant handicapé, une mère qui a un enfant handicapé. Et c'est bouleversant, parce qu'elle dit quand tout le monde est heureux de voir ses enfants partir et se marier, moi, je sais que je n'aurai jamais ça. Tu resteras toujours accrochée à mes basques. Et je voudrais vraiment, je donnerais n'importe quoi pour que tu sois comme les autres. Hein. Et c'est magnifique. Et c'est, voilà, c'est, ça touche terriblement. Et il se trouve que Pierre Covin, qui était mon formateur, était aussi un grand admirateur de Linda Lemay. Alors, de temps en temps, on se faisait des clins d'œil parce que tu as vu, il y a telle chanson, que, oh, elle est géniale et tout. Et moi, j'ai fait tout mon mémoire, évidemment, sur les parties de moi qui sont interdites, qui sont reniées, qui sont repoussées. Et puis, petit à petit, celles que je juge d'une certaine façon, et puis celles qui me touchent, et puis celles que j'inclus. Et puis, cette fameuse finale qui était vraiment l'inclusion de deux opposés très, très forts, qui réconcilie tout ça.
Mais merci pour ce partage. Est-ce que j'entends aussi, au-delà de ce lien particulier que tu entretiens avec Linda Lemay et ses chansons, c'est combien l'art peut être aussi une véritable source d'inspiration, c'est-à-dire arriver à trouver un artiste ou une artiste ou une modalité finalement de créativité qui nous permet justement d'aller voir d'aller accéder à un champ des possibles plus large que celui qu'on imagine ou qu'on ose imaginer. Et je crois que, notamment pour faire des choix justes pour soi et authentiques, s'inspirer autour de soi, trouver des ressources qui nous ouvrent les perspectives, c'est toujours précieux. Et je crois que voilà, c'est ce que je retiens de particulièrement touchant du partage que tu viens de nous faire, dont tu viens de nous faire cadeau. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, Ariane.
Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, donc, j'invite tous les auditeurs à lire ton magnifique livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur » pour en savoir plus et notamment pouvoir s'appuyer sur les exercices pratiques aussi que tu proposes dans ce livre. Un grand merci à toi, Isabelle.
Merci, Ariane.
Un grand merci à Isabelle pour sa confiance, sa générosité et sa finesse. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Sortez vos agendas et surtout faites-le. Pour en savoir plus sur l'actualité d'Isabelle Demeure, direction son site identitédiversité.com. Si vous êtes une personne qui sait cocher les cases avec succès et qui sent que pourtant la vie, ça doit être un peu plus que ça, si vous êtes lassé de votre quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens, plus de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance, avec le dialogue intérieur entre autres. Si vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps de vous construire une vie qui vous ressemble et qui vous réjouit davantage, contactez-moi via mon site orianesavourelucas.com pour que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourelucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de votre semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix à Avez-vous choisi, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées sur vos choix ou pour me suggérer de nouveaux invités, pourquoi pas, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?